Alors nous sommes avec Pascal Dinky, qui est membre de HG13, Habitons Groupés, qui est une structure qui vise à promouvoir l'habitat participatif dans le département des Bouches-du-Rhône. Hein, c'est ça, Pascal?
Voilà, tout à fait. Donc le but est de faire la promotion de l'habitat participatif, d'informer les gens donc, tout d'abord sur le fait que ça existe, sur ce que c'est, informer et être un lieu de rencontre, soit pour les groupes déjà constitués qui sont encore en recherche de gens qui vont venir se greffer chez eux, ou de gens qui vont vouloir constituer des groupes. Et en parallèle, on réfléchit à la constitution d'outils, à ce qui est faisable pour faciliter l'avènement des projets, parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est encore ce qui pêche. La construction chez nous, c'est difficile. Et donc, il y a des blocages et les gens sont souvent découragés.
Oui.
Donc, on essaye de trouver des palliatifs à ça, de trouver de nouvelles manières de faire, de mettre en lien avec des professionnels, d'où aussi le partenariat fort avec l'association Regain, qui est une association d'accompagnement des groupes, là où il y a des salariés qui accompagnent les groupes,
Qui est une association régionale.
qui est une association régionale.
Et alors aujourd'hui, on a combien de projets dans le département?
Alors, dans le département, il y en a une dizaine. Sur Marseille même, on a trois projets aujourd'hui qui sont en phase de vraiment de qui vont attaquer la construction à l'Estaque, en bas du boulevard national
Oui.
et à la Belle de Mai. Là, il y a un projet, par exemple, sur Forcalquier qui va être bientôt terminé. Il y a un projet à Montpellier qui s'est terminé il y a peu de temps, Mascobado,
Ah oui.
qui est assez
Tout à
emblématique.
fait, oui.
Voilà. Donc, il y a quand même des projets qui avancent, qui se font. Aujourd'hui, pas mal de projets portés par des bailleurs sociaux. Mais on essaye aussi de réfléchir à comment on peut faire du projet privé en participatif. Sachant qu'on rencontre des difficultés pour trouver le foncier, pour bloquer le foncier. Une des difficultés est d'arriver à avoir en même temps un groupe mature et un foncier, un projet disponible.
Alors, on se rend compte aussi dans le cadre de la Fête des possibles, qui vise à promouvoir tout un tas de transitions citoyennes. En quoi, aujourd'hui, l'habitat participatif est-il un outil, de transition?
C'est un outil de transition parce que c'est une approche différente du fait d'habiter. C'est de se réapproprier le fait de concevoir un logement, de savoir dans quoi on va habiter, de participer à l'élaboration de son projet. Et voilà, ça ne veut pas dire qu'on va construire soi-même, encore qu'il y ait possibilité de faire de l'autoconstruction,
Oui.
mais aussi d'être acteur de la conception du projet. Beaucoup plus que quand on va chez un promoteur, on achète, voilà, le plan c'est comme ça, on peut bouger une cloison ou une autre, mais il n'y a aucune réflexion sur le lien avec les voisins, sur, alors après, les réflexions vont assez loin, sur comment on va transmettre, qu'est-ce que ça représente, parce qu'il y a plusieurs systèmes pour habiter, on peut être locataire, on peut être propriétaire, mais dans l'habitat groupé, on peut être aussi coopérateur,
Oui.
ça peut être une coopérative, donc on est propriétaire pas d'un bien désigné. On est en fait propriétaire de parts de coopératives
Oui.
qui donnent un droit à habiter. Donc c'est une relation totalement différente à l'habitat, qui chez nous a tendance à être à la fois un patrimoine, un objet financier, et finalement, le fait d'habiter devient quasiment secondaire.
Oui. Oui, puis c'est réfléchir aussi à la consommation de l'espace, j'imagine. On peut intégrer également des éléments qui sont relatifs
Alors,
à la construction écologique.
tout à fait. Il y a d'abord une réflexion sur la mutualisation, soit de lieux, soit de services. Alors les lieux, ça peut être des chambres d'amis, ça peut être la buanderie, ça peut être une salle de réception. Les chambres d'amis, par exemple, c'est très bien. Avoir une chambre d'amis chez soi, c'est un coût quand même relativement important. En plus, on est bloqué parce que si on veut faire une fête de famille, par exemple, c'est tout de suite trop petit.
Oui.
Alors que sur 10 ou 15 logements, on peut avoir 3 ou 4 chambres mutualisées. Donc, il y a une économie de fait et en même temps, c'est quelque chose de plus convivial. On peut mutualiser aussi des services. Et il y a un groupe, par exemple, il y a 8 familles
Oui.
qui ont 3 véhicules en commun.
Ah oui,
Parce
ça c'est.
qu'ils se sont aperçus que 3 véhicules, finalement, compte tenu de leur utilisation, ça suffisait
Ouais.
pour répondre aux besoins des 8. Voilà. Donc, en fait, l'imagination, enfin, il n'y a pas de limite, en fait, c'est l'imagination du groupe qui va poser des limites de ce qu'on peut mettre ensemble. Mais pourquoi pas? Alors, il peut y avoir des gens qui sont orientés sur des activités artistiques, qui peuvent vouloir avoir un atelier. C'est vrai qu'avoir un atelier pour une personne, c'est quand même lourd. S'il y a plusieurs personnes, bah, c'est plus facile. Avoir un lieu pour les enfants, et puis après, effectivement, gérer la garde des enfants, la surveillance, etc., c'est plus facile si on est à plusieurs. Et la conception du lieu peut faciliter ou bloquer ce genre de choses. Aujourd'hui, on le voit dans des ensembles immobiliers, le truc classique, c'est d'avoir un espace vert au milieu dans lequel il n'y a personne. Voilà, c'est typique. Alors que ça devrait être un lieu de vie. Et quand on est dans des copropriétés classiques, il y a des gens qui le disent, bah, on propose d'aller mettre une table, des chaises pour se rencontrer. Non, on a un blocage des copropriétés. Donc c'est d'inverser ces rapports, d'inverser ces relations pour aller vers quelque chose de plus convivial, décider ensemble. Donc dans l'esprit, c'est totalement différent. Si la technique peut être la même, dans l'esprit, c'est totalement différent. Ça se traduit aussi quand même dans le physique, parce que d'abord, étant donné qu'il y a des mutualisations, les répartitions des espaces, l'organisation des espaces et des circulations est souvent différente de l'habitat classique. Et puis souvent, les gens sont sensibilisés sur la construction basse consommation, écologique, de la construction de bois. Voilà. Donc ça aussi, parce que c'est des gens qui sont plus conscients et qui veulent un habitat pour y être et vivre avec. Et ils ne sont pas consommateurs d'habitat.
Très bien, ben, merci Pascal.
De rien.
Et si on veut plus d'informations, on va sur le
Le
site.
site HG13 directement, et vous aurez la page d'accès à HG13 qui vous donne des liens aussi sur d'autres sites, sur tous les sites de la construction participative.